Bon matin tout le monde. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on va parler du psaume 15. Mais avant cela, j'aimerais bien vous parler de quelque chose qui est un peu difficile à comprendre dans la vie des hommes, mais aussi dans l'écriture. Tout au long de l'histoire, il est difficile pour l'homme qui a ses propres limites de penser à ce Dieu infini. Il y a toujours cette contradiction. Parce que des fois, notre pensée, il est limitée, donc on ne peut pas comprendre l'illimité. Nous sommes une toute petite chose, toute petite créature que Dieu a créée. Donc c'est impossible pour nous de comprendre le Dieu infini, le Dieu illimité. D'ailleurs, il y a certaines occasions que Dieu se révèle à nous par lui-même de nous montrer qui il est. Et c'est aussi par cette grâce infinie qu'il nous a donné cette connaissance dans son omnipotence, dans son omniprésence, dans son omniscience, loin de nous, êtres humains, de comprendre cela. Mais heureusement, Dieu s'est révélé à nous. Et on va se focaliser par cette révélation de Dieu qui va nous communiquer sa volonté à nous, même malgré notre finitude, notre limite. Comme par exemple, quand l'apôtre Paul, quand il est allé sur la route de Damas, pour persécuter les chrétiens, les disciples. À un moment donné, Jésus s'est révélé à lui. Pierre, Paul, je m'excuse. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Moi, je suis Jésus. Ça, c'est une occasion de révélation de Dieu pour l'apôtre Paul. Mais là, Dieu nous a donné la Bible pour révéler sa volonté, pour qu'on puisse le suivre dignement. Le psaume 15 ici, c'est une psaume qui est une parole de Dieu directement à suivre, une instruction qui est un peu claire à suivre. Et on va le lire, psaume 15, de 1 à 5. Psaume de David, Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancelera jamais. Amen. En général, les psaumes, est le reflet de la vie des Israélites. Elle s'étale au plus de 1000 ans, depuis Moïse jusqu'au retour de l'exil. Donc, quand on va lire la psaume, on comprendra bien qu'il y a des personnes qui ont puisé leurs ressources dans les psaumes, qui ont puisé des instructions, qui a pris des encouragements dans les psaumes. C'est autrefois, mais je pense, et je suis sûr, que c'est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Titanic. Quand on va voir le film Titanic, là, je ne pense pas au chanson « My heart will go on », mais moi, je pense... Parce que quand on parle de Titanic, c'est ça qui est le plus important dans ça, l'histoire de deux amoureux. Mais moi, quand je regarde ce film, quand j'étais encore petit, quand le bateau va s'écrouler, il va couler dans l'eau là. Il y a un jeune homme qui marche dans le corridor. Et qu'est-ce qu'il a cité, d'après vous? Est-ce que vous avez remarqué ça? Le psaume 23. Donc, pour vous dire que les psaumes et aujourd'hui encore d'actualité et pour puiser nos ressources, nos encouragements, nos instructions. Le psaume 15 est une psaume comme psaume d'inclusion, là, comme il y a une introduction et il y a une conclusion. Et dans cette introduction, au milieu de cette introduction et de la conclusion, il y a des choses à suivre pour que ça tienne bien. L'introduction, c'est le verset 1. Et la conclusion, c'est le verset 5, chapitre 15, 5b. Et le verset 1, c'est « Seigneur, qui peut être ici dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée ?» Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée? Dans la société orientale de l'époque, le hôte, ici c'est il traduit le hôte dans le verset en hébreu, le hôte comme une personne spéciale à qui on doit confier quelque chose de sacré, mais ce n'est pas n'importe qui. Mais il doit protéger ce sens au péril de sa vie. Et ce hôte-là, celui-là qui va être reçu, c'est un pèlerin, évidemment, comme nous, pèlerins dans ce monde. Notre monde, ce n'est pas d'ici. Notre monde, c'est le monde céleste. Et ce hôte-là, celui-là qui va être reçu dans une place spéciale. Mais il y a aussi... Mais ce n'est pas juste dans un monde humain, mais la société orientale va avoir, au-delà, plus que ça, il y a des divinités, des divinités. C'est pour expliquer, la parole c'est pour expliquer aux hommes, pour adapter à l'idée des hommes, qu'il y a cette occasion d'être le hôte de Dieu parmi les croyants, parmi les pèlerins, mais là, parce que c'est parmi les croyants. Mais d'ailleurs, dans la Bible, il y a des gens, ce n'est pas malheureusement, mais il y a des gens qui sont qualifiés le plus proche de Dieu. Je vous envoie à l'idée de Moïse. Moïse, qui est allé rencontrer directement Dieu dans la montagne. Moïse a parlé directement avec Dieu. Est-ce que ça ne vous tente pas? Il y a aussi David, l'homme, selon le cœur de Dieu. Et c'est Dieu même qui l'a qualifié. Ça ne vous tente pas? Parmi les disciples, il y a 3 disciples qui sont plus proches de Dieu. C'est qui? Pierre, Jean, Jacques. Les 3. Quand Jésus va partir, aller seul, il emmène ces 3-là. Pour avoir cette opportunité, je vous invite à réviser notre CV. Quand on va aller chercher du travail quelque part là, est-ce que le CV, ça correspond aux critères? Quand ça ne correspond pas aux critères, malheureusement, c'est dommage. No way. Mais avant de voir ces exigences-là, j'aimerais bien porter notre attention sur le dernier verset. Celui qui agit ainsi, c'est-à-dire celui qui va ainsi, agit sur les choses qu'on va parler après. Celui qui agit ainsi, qu'est-ce que David a dit? Ne chancellera Jamais. Le mot hébreu, ici, c'est olam. Quand la Bible va parler de olam, c'est à perpétuité, à l'éternité. Ce n'est pas juste un moment, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, mais c'est à perpétuité, à l'éternité. Je ne sais pas, mais dans la vie des chrétiens ou dans la vie des croyants, il y a toujours cette fausse conception théologique. Oui, dans Psaume 37, 25, la Bible parle. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Amen. Oui, dans la vie présente, il y a cette récompense que Dieu va donner au juste. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette éternité qui nous attend. Donc, moi je vous dis là, si on va espérer Dieu sur cette vie-là, qu'est-ce qu'il a dit Paul? Nous sommes le plus misérable de tous les êtres humains, ce n'est pas de tous les croyants, mais tous les êtres humains. C'est juste cette vie-là. Mais il y a l'éternité qui nous attend. Et il faut préparer cette éternité. Et dans la Bible, il y a toujours cet enseignement qui va nous renvoyer à cette préparation de l'éternité. Tu es responsable de ton avenir éternel. Il y a des responsabilités. Il y a notre responsabilité. Dieu va faire ce qu'il a fait. Mais nous, il nous attend qu'on soit responsable de nos actes. D'ailleurs, c'est ça le libre arbitre. Il y a cette responsabilité que Dieu exige que nous fassions. À quoi concerne ces critères? C'est celui qui est, le verset 2, c'est celui qui est irréprochable et qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Ça, c'est la traduction français courant. Mais le Darby, c'est celui qui marche dans l'intégrité et qui fait ce qui est juste et qui parle la vérité de son cœur. De son cœur. Là, il n'a pas dit tout simplement « marche dans l'intégrité et fait ce qui est juste ». Mais David a mentionné son notre cœur. Des fois, on est dit, moi, je marche dans l'intégrité. Moi, je fais ce qui est juste. Mais est-ce que ton cœur Le cœur, c'est cet être intérieur qui... C'est notre conscience morale. C'est notre motivation. On va voir un exemple sur les disciples de Jésus. On va voir Pierre. En Marc 14, 29, 31, Pierre lui dit, quand tu trouveras une occasion de chute, moi pas. C'est Pierre qui a dit ça avant de trahir son maître. Là, il dit, quand ses disciples-là, ils vont partir, Jésus, moi, non, moi, je vais rester à côté de toi, là. Et Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, je te le dis aujourd'hui, cette nuit même, la nuit même, c'est pas le matin, mais la nuit même, que le coq chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. 3 fois la nuit. Mais là il dit, là il est en train de dire, Seigneur, non. Mais Pierre, encore affirmé, Jésus, il connaît le cœur de Pierre là. On ne peut pas faire des mises en scène, là. Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, là, Pierre, tu as parlé si vite, là, je te renierai, point. » Et tous disent de même chose. Mais quand l'occasion est venue, les autres, ils sont tous partis. Pierre, il est encore vivant. à côté, pas plus près, mais un peu loin là. Vous savez ce qui s'est passé? Dans Marc 14, 66 à 72, une jeune servante, ce n'est pas des soldats avec des armes, mais une servante, toi aussi, tu es son ami. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Moi, je ne connais pas lui, là. Lui, là, je ne connais pas, là. Mais cette nuit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te renierai point. Moi, mes frères, je vous invite à examiner nos cœurs. Heureux, Matthieu 5, 6, ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Quand tu as cette besoin de faire, Dieu va t'aider. Mais quand tu es déjà, quand tu ressens que tu es au top, tu n'as plus besoin d'apprendre. Même d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit Socrate? Ce que je ne sais rien. Ah, c'est un païen, c'est un philosophe. Mais là, je vous invite à bien faire une auto-évaluation de notre cœur. Est-ce qu'il y a une place à la jalousie, à la haine? Garde ton cœur de toutes choses, car de lui qui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur de toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Marcher dans la justice, selon notre cœur. À quoi consiste cela, d'après le psaume 15? Cela se manifeste par l'utilisation de notre langue. Il ne raconte pas du mal des autres, et il ne fait pas de tort à son prochain, et n'insulte pas son voisin. Ici, David nous invite à marcher dans l'intégrité, dans la justice, dans l'utilisation de nos bouches. D'ailleurs, l'épître de Jacques nous dit, ainsi aussi, Jacques 3, 5 à 6, ainsi aussi, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu. Quelle grande forêt allume-t-il? Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité, est établie parmi nous, parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps et enflamme tout le cours de la nature. Jacques 3, 8 à 10. Mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche possède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Est-ce que nos bouches, nos langues sont source de bénédiction, source de malédiction? Et c'est ça, marcher dans les dérivés. Elles devraient être source de bénédiction. Là, la parole ne dit pas que la langue est source de malédiction, mais ça peut être, si on ne prête pas attention. Est-ce que nous utilisons nos langues de la bonne manière à honorer notre Seigneur et à guérir nos prochains? Honorer Dieu par nos paroles, c'est de ne pas dire des mauvaises choses à propos de nos prochains. Calomnie, diffamation. Le dernier partie du verset 3, ne jette pas de déshonneur à son prochain, c'est-à-dire respecter la créature, la créateur lui-même, parce que c'est Dieu qui l'a créé comme tel. Donc ce n'est pas à toi de dire, ah Dieu, tu n'as pas fait de bonnes choses, Dieu. Hein? Tu as fait de mauvaises choses. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Le psaume 15, 4. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. Là, David nous renvoie à avoir une vision juste. Juste quand c'est juste et injuste quand c'est injuste. Il n'y a pas de question, est-ce que quand on est face à une situation d'injustice ou de justice, quand un parent qui a un enfant qui a fait une injustice, là il tolère un peu plus. Mais quand les enfants des autres, mais quand c'est juste, c'est juste. Quand c'est faux, c'est faux. C'est injuste, c'est injuste. C'est juste, c'est juste. Il y a cet favoritisme. Peut-être, moi je dis, peut-être, il y a des favoritismes dans celui qui est proche de nous, nos familles, mais quand il est loin de nous, là, on est un peu sévère. Prenons l'exemple de Paul. Quand il a chicané Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? Là, Pierre, il est en train de manger avec les incirconcis. Et quand les frères juifs arrivent, il tasse à côté parce qu'il ne veut pas qu'on le voit manger avec les incirconcis. Et qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Mais quand Pierre vient à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les frères non-juifs. Mais après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de manger avec les non-juifs par peur de partisans de la circoncision. Là, là, c'est pas correct. Là, quand c'est injuste, c'est injuste. Quand tu honores pas Dieu, tu honores pas Dieu. Mais ne fais pas comme là, ça va. Mais quand l'autre, ça va pas. Il faut avoir cette bonne et droite vision dans nos vies. La suite du verset 4 nous montre que cet engagement que nous avons pris dans nos vies, s'il fait un serment qui lui cause du tort, il ne songe pas ce qu'il a dit. C'est une marque de loyauté. Moi, pendant le règne de l'empereur de Suisse, et Valérien, en 247 après Jésus-Christ, les empereurs ont organisé une festa, une grande célébration. C'était une grande célébration. Et quand les empereurs vont faire une grande célébration, cette occasion, c'est pour la millième anniversaire de la ville de Rome. Millième anniversaire de la ville de Rome. Et quand on va faire cette grosse célébration, évidemment, qu'il y a cette débauche à la folie. Bah, toute la folie du monde. Même il y a le vomitorium, une salle pour un endroit pour vomir. On va boire, après on va vomir dans l'endroit et puis on retourne. Boire. C'est comme ça qu'ils font les fêtes. Mais les chrétiens n'ont pas participé. Ce n'est pas obligatoire, mais les chrétiens n'ont pas participé. En 248 après Jésus-Christ, les empires germaniques et les Goths ont envahi Rome. Et qu'est-ce qu'il a dit l'empereur, les empereurs là, à l'époque? C'est la faute aux chrétiens parce qu'ils n'ont pas adoré notre Dieu, nos dieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, vous êtes obligés de faire des offrandes à nos dieux, c'est-à-dire de quitter votre Jésus et d'adorer nos dieux. Et pour que ce soit bien clair, il faut falloir un certificat. Il y a beaucoup de personnes, parce que c'est obligé, la prison, la mort, si tu ne fais pas, mais la vie terrestre, si tu le fais. Il y a beaucoup de disciples qui ont participé à cette prière aux idoles. Il y a ceux qui ont fait des corruptions pour avoir le certificat. Mais il y a ceux qui ont tenu jusqu'au bout, jusqu'au péril de leur vie. Mes frères, est-ce qu'on est fidèle à notre engagement? Même si c'est à notre perte, Je ne sais pas, il y a quelques jours, je n'étais pas là, il y a quelques jours, le fait des ministères, on a écrit nos noms là. Moi, je suis chauffeur. Je ne sais pas quel engagement on a pris. Même pas ici. Même pas dans le plus petit détail de nos vies. Peut-être tu vas dire à ton enfant, ce soir je vais jouer avec toi. Mais le soir, non, je suis fatigué. On va reporter ça demain. Je ne sais pas. Oui, tu es fatigué. La cinquième verset nous parle de l'utilisation de notre argent et de nos biens matériels. Ça se lit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Dans les lois mosaïques, Dieu interdit au peuple israélite de faire profit envers la pauvreté de ses frères. Deutéronome 23, 20 à 21. Si vous prêtez quelque chose à un compatriote, argent, nourriture ou autre, n'existe de lui aucun intérêt. Vous, 21, vous pouvez exiger des intérêts d'un étranger, mais pas d'un compatriote. Obéissez à cette règle dans le pays dont vous allez prendre possession. Et le Seigneur, vous Dieu, et le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Quand c'est un étranger, on a le droit. Mais non. Au-delà de ça, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus est allé plus loin. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de bon samaritain? Quand un docteur de la loi, un gardien de la foi, a essayé de piéger Jésus dans ses questions. Mais Jésus a fait cette... Le bon samaritain là. Qu'est-ce qu'il a fait le bon samaritain? C'est un ennemi des juifs. Mais qu'est-ce qu'il a fait envers la personne blessée? Il a pris soin de lui sans avoir prendre en retour. Il n'a pas dit, la prochaine fois quand je reviendrai. Même à la fin de la discussion, Jésus a dit, lequel de ces trois hommes semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par le brigand? Il n'a pas osé dire le bon samaritain, non, il n'a pas dit celui qui a été bon pour lui, il ne peut pas dire un samaritain. Parce que c'est vraiment la honte pour les juifs de dire ça, d'être avec eux. Mais lui, là, il a aidé, sans avoir du retour. L'évangile de Matthieu dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La douceur ici, c'est quoi? Nous sommes dans un pays de droit. Mon droit. Là, ça c'est mon droit. Mais une personne douce, c'est une personne qui ne réclame pas son droit. Dans le comptoir alimentaire, je m'excuse, dans le comptoir alimentaire, des fois, quand c'est pour une personne seule, c'est deux sacs. Des fois, trois sacs. Mais deux sacs ou trois sacs, c'est la même chose. Ils sont dans le trois sacs ou dans le deux sacs. Mais il y a des personnes qui font le sac en bas, qui vont remplir juste deux sacs, mais c'est la même chose. Mais il y a des personnes qui remplissent trois sacs, mais c'est la même chose. Et quand on va porter ça en haut, là, pourquoi il a trois là? Mais pourquoi moi j'ai deux là? Mais c'est la même chose. Mais ça, c'est... Notre pensée s'est forgée avec cette... La Bible, c'est à l'antipode de la vie sociale, là, maintenant. La Bible, il nous enseigne différent, mais la société, il nous enseigne, il va nous remplir la tête des trucs qui est contre la valeur biblique. Et c'est ça, la vie, maintenant. Quand c'est mon droit, c'est mon droit. Mais Dieu va dire, heureux ceux qui sont doux, mais ils hériteront la terre. Amen. Tous les jours, psaume 37, 26, tous les jours, il prête généreusement et ses enfants tirent encore profit. Pour ne pas se fatiguer dans nos bonnes œuvres, je vous invite à voir cette humilité de Jésus. L'Empire romain, quand il condamne un homme sur la croix, c'est parce que cet homme est vraiment le plus pire bandit qui se trouve dans l'Empire. Je vous dis, le plus pire bandit qui se trouve dans l'Empire. On ne peut pas clouer un homme sur la croix quand il a volé une poule ou un coq. Non, ça ne se fait pas. Et les Romains, ils sont bien conscients de ça. Il ne faut pas clouer quelqu'un qui n'a rien fait sur la croix. Mais Jésus a traité comme tel, même s'il est innocent. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Enlève-moi ce coupe dans le mont Olivier, mais je vais faire ta volonté, Seigneur. Père, est-ce qu'il y a un profit de Jésus quand il nous a sauvés ? Est-ce que c'est injuste pour nous de dire, ah, Jésus, il mérite bien la croix. Mais non, 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 non. C'est moi qui ai mérité la croix. C'est toi qui as mérité la croix. Mais lui, même le militaire, le soldat qui a vu, ah, lui-là, il est vraiment un homme de Dieu. C'est injuste pour Dieu. C'est juste pour Dieu parce que il doit avoir cette rançon de nos péchés. Et c'est ça la justice de Dieu. Mais c'est injuste pour nous parce que nous avons cloué un homme innocent sur la croix pour nos propres iniquités, pour nos propres fautes. Mais en plus de cela, l'homme qui est cloué n'attend rien de nous. Mais il nous a rachetés par son sang, par sa vie. Donc moi, mes frères, je vous encourage à faire des bonnes œuvres, à faire des bonnes œuvres. Par heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Le dernier point que David parle, c'est que il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Cette ordonnance est parmi les 10 lois de Moïse. C'est la 9e loi de Moïse. Une personne qui pratique la justice ne se laisse pas corrompre par le profit ou l'argent. Ne se laisse pas acheter à un prix. Parce que des fois, il y a un prix là. Waouh. Est-ce que je dois pour faire un compromis juste dans la vie chrétienne? Est-ce que c'est une bonne affaire pour moi si je fais ça et je fais ça et je fais ça? À quel point notre loyauté envers Jésus et notre loyauté envers la justice demeurera-t-il? Donc pour terminer là, qui se journera dans ta tente et qui demeurera sur la montagne sainte de Dieu? Je vous ai montré le chemin, les critères, le CV, et c'est à nous d'en méditer. Quels sont les points que je dois faire des efforts, que je dois mettre aux pieds de Jésus pour que je puisse avoir cette mentalité, cette comportement pour qu'un jour, je peux être à côté de Dieu. Amen.